Vous écoutez
RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts, c'est qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero. Ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Super Brébois.
Et oui, l'after continue en direct tous les soirs, même dans cette période sans match, avec vous, pour vous, bien sûr, au 32-16. L'after avec Daniel Riolo dans sa salle à manger, Jérôme Rotten sur son canapé, Laure Le Payeur dans sa chambre d'amis. Messieurs, là, tiens, j'ai une petite annonce à faire. Vous le savez, RMC, face à l'épidémie de coronavirus, s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris pour soutenir les personnels soignants. Donc, on lance un appel aux dons depuis plusieurs jours. C'est très simple. Soit vous allez sur rmc.fr pour avoir tous les détails, soit vous envoyez don par SMS au 92 111 pour donner 5 euros. Donc, envoyez don par SMS au 92 111. Les gars, vainqueur Paulo Breitner, qui est là parmi nous. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Alors Paulo, j'ai reçu beaucoup de messages avant même ton intervention. Je t'en livre quelques-uns. J'attends avec impatience, me dit Pitem, le cours d'histoire de Paulo. On a déjà une version de ce match, mais avoir la version et les arguments d'un mec aussi cultivé et qui maîtrise autant son sujet, ça va valoir de l'or. Voilà ce qu'il lui dit. Et puis RFK qui lui dit, il lui dit franchement, j'attends avec impatience le point de vue d'Outre-Rhin pour ce match digne du Watergate dont nos parents nous parlent encore 40 ans après.
Le côté culture, je remercie, mais vous êtes au minimum aussi cultivé que moi, donc ça
ouais, c'est clair,
c'est flatteur, mais ça s'arrête là. Je suis super content, Gilbert, que tu me permettes et que vous me permettiez de m'exprimer sur cette thématique, puisque je voudrais juste rappeler que j'avais 11 ans à l'époque, que j'étais en vacances dans le sud-est de la France, et comme je n'avais pas de télé, j'avais demandé à la reine mère si je pouvais aller dans un troquet du coin pour aller voir ce match qui évidemment était mythique, et donc je l'ai vécu comme l'ensemble, j'ai envie de dire, des préadolescents de cette époque.
Bah, à l'époque, t'étais pour la France.
Mais j'ai été pour la France en 1982, pour la France en 1986, et en fait, c'est ceux
aussi
qui écrivent sur les matchs, et 84 évidemment, mais il n'y avait pas France-Allemagne, les Allemands avaient été sortis en poule. Mmh. Et d'ailleurs, Joop Derwall avait sauté en 84 après le championnat d'Europe, donc le sélectionneur, le Bundestrainer de la Nationalmannschaft,
parce que perdu contre l'Espagne.
Contre l'Espagne dans les dernières minutes.
De la tête d'un défenseur central blond dont j'ai oublié le nom, Marcheda, un truc dans le genre.
Oui, qui a un nom comme ça, ouais. Et je ne sais plus si c'était à 87e ou 88e, je ne sais plus, peut-être même à 89e. Mais en fait, il avait sauté officiellement parce qu'il s'était fait sortir du tournoi lors des poules, ce qui n'est impensable pour une équipe d'Allemagne. Mais surtout, il payait 82, il payait le comportement des joueurs allemands depuis plusieurs années. Donc c'est ça qui était intéressant, de déconstruire cette époque, parce que, encore une fois, c'est toujours le bien d'un côté contre le mal de l'autre, et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est surtout un monde qui bouge beaucoup, qui change, et je ne suis pas d'accord avec la théorie qu'on raconte en disant c'est la naissance de l'équipe de France. Pour moi, justement, c'est un monde qui s'écroule, c'est le monde.
Alors,
du chevalier blanc.
Paulo,
c'est... voilà, pardon.
Je vais te donner la parole, bien sûr, tu vas pouvoir délayer ton discours, on t'écoute, on va t'interrompre aussi un petit peu quand même, hein, pour donner notre avis, mais en préambule, j'aimerais quand même vous faire écouter un truc. Alors, France RFA, la majorité de nos auditeurs connaissent l'histoire, même si vous n'avez pas vu le match. Donc, fameuse demi-finale de Séville 82, qui se termine au tir au but, avec Battiston donc gravement blessé. Fracture de la cervicale, quand même, hein, pour Battiston sur le coup de Schumacher. Mais ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est la tentative de réconciliation qu'il y a eu quelques semaines plus tard.
À Strasbourg.
À Metz, parce que Battiston, à l'époque, jouait à Metz. Pardon, et Schumacher est venu à Metz voir Battiston pour lui dire, écoute, voilà, je suis désolé de ce qui s'est passé, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça, moi je pensais que t'allais faire ça et tout. Et il y a eu alors une conférence de presse, je sais pas si vous vous souvenez de ça tous, et on a retrouvé l'extrait, vous allez écouter Battiston, ça dure 40 secondes, qui explique ce qui s'est passé. Donc là on est quelques semaines plus tard, donc Battiston s'est remis, il avait perdu des dents dans l'affaire, enfin c'était quand même un choc très violent, et il fait une conférence de presse avec Schumacher à côté de lui, Schumacher habillé, qui vient avec un polo à rayures et une cravate, un look totalement magnifique, ouais, d'Allemand, voilà, parce que polo, rayures, cravate, faut oser quand même, et on écoute donc Patrick Battiston.
Je crois qu'il a été très sévèrement critiqué pour son geste, donc c'est pour cette raison qu'il a souhaité me rencontrer. Il me voit arriver très vite sur le ballon, il sait pertinemment que je vais arriver le premier, il pense que je vais le lober, ce que je pensais exactement faire. Mais en fait, il a anticipé, et au moment de la frappe, j'ai envoyé le ballon de côté. Donc il a voulu éviter de me rencontrer avec les genoux et les pieds en avant. Donc c'est pour cette raison qu'il s'est retourné et qu'il n'a pas pu freiner son élan. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de sentiment d'agressivité ni de, comment dire, une certaine rancœur. Je voulais juste savoir quel était son état d'esprit, pour quelle raison donc il avait agi comme il l'avait fait. C'est tout, voilà, ça me suffit d'avoir discuté comme ça avec lui.
Voilà, Patrick Battiston.
Ouais, il avait pas fait exprès.
Non, mais il est quand même fair play, le gars.
Quel fair play, fair play. Ouais.
Et il l'appelait pas Schumacher, il l'appelait Schumacher, ouais. Il disait Battiston.
Rappelons que Schumacher a toujours nié le fait de l'avoir fait exprès, encore aujourd'hui. Ça me semble important. Mais ce qu'il y a.
Non, mais on ne peut pas croire qu'il l'a fait exprès.
Non, mais là, quand bien même, c'est la faute de l'arbitre. Là.
Déjà oui, arrêtez de raconter ce que vous racontez en France pendant 40 ans. Ça devient insupportable au bout d'un moment.
Non, mais Polo, tu crois vraiment qu'il n'a pas fait exprès, Polo?
Ce que vous oubliez, encore une fois, c'est que ce qui construit le mythe de Schumacher, c'est notamment ce qu'il raconte à la fin du match en disant, mais vous savez, Battiston est blessé, etc. Il a perdu deux dents. Il lui dit, bah, si c'est juste que ça, je vais lui payer ses deux couronnes.
Et donc ça, c'est rien. Et donc, ça, c'est rien, en fait.
Non, mais ça, alors, c'est ça où je déconstruis, moi, le discours. C'est que on est incapable de comprendre en France, en dehors, évidemment, de voir systématiquement les Allemands comme des fils de nazis, notamment à l'époque, faut pas l'oublier.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Ça évolue.
Non, c'est pas autre chose. Ça fait partie.
Alors, en 82, Polo.
Alors attends. Déjà, il y a un premier point d'achoppement. Polo, après, je te laisse déconstruire tout ce que tu veux sur la relation franco-allemande et tout. Mais tu ne peux pas consciemment dire Schumacher ne fait pas exprès. Pourquoi?
Ouais,
Parce que quand le mec est par terre, si moi je fais ça et je fais pas exprès, quand je vois un mec par terre, quand je vois le mec évacué, quand je vois le mec perdre connaissance, je ne me mets pas derrière les lignes des 5-50 en posant le ballon prêt à tirer et prêt à dégager. Si j'ai un minimum d'humanité, je vais voir le mec, je lui dis ça va ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas fait exprès, je t'ai bousculé. Déjà, lui, il reste sur la ligne. Il reste sur la ligne. Il pose le ballon et il est prêt à dégager. Il a un regard. Lui, je l'ai bien descendu.
Vas-y, Polo.
Est-ce que je peux répondre à ça?
Bien sûr.
C'est quoi le football des années 80?
Non, Polo,
c'est quoi les tacles assassins que se prend Maradona? C'est quoi les tacles assassins que se prend Maradona à chaque match?
Non, mais là-dessus, Polo.
D'accord, il n'a pas fait exprès.
Moi, je pense que vous avez tous les deux raisons.
Avançons, s'il dit qu'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès.
Non, mais attends, moi, je pense que vous avez tous les deux raisons. C'est-à-dire que Schumacher a fait exprès. Mais c'est vrai que
Polo
ça
correspond. Qu'il a pas fait exprès.
Non, mais attends, mais ce que dit Polo est aussi vrai. Ça correspondait à une époque où il y avait des assassins sur les terrains.
Ouais, d'accord. C'est-à-dire,
et je vais aller plus loin. Il y a eu un match Pays-Bas-Allemagne de 1980 qui évidemment n'intéresse pas la France. Johnny Rep, star des Verts pendant des années, passe son temps lorsqu'il est devant la cage de Schumacher à mettre des coups de genou dans le dos de Schumacher. Et là, il y a jamais personne pour dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est toujours mais regardez-moi ça. Regardez, vous prenez une caméra, vous la fixez là-dessus. Et c'est aussi pour ça que cette agression, non pas qu'elle me fasse rigoler, mais si tu prends l'instantané, les gens s'en fichent complètement de cette agression parce que le ballon passe à gauche des buts de Schumacher.
On s'en fout.
C'est-à-dire que vous cherchez les choses.
Vous cherchez les choses. Toujours quelque chose dans un autre match.
On va pas faire un quart d'heure sur cette action. Vous serez pas d'accord. C'est pas bien grave.
Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont derrière les réactions ont été en France, on les connaît, mais comment l'Allemagne a vécu ce truc-là. Mais moi, il me semble qu'il y a eu beaucoup de contrition.
Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut pas oublier, parce qu'il faut contextualiser ce qu'est l'Allemagne à l'époque. L'Allemagne, elle cherche à se racheter une morale, une vertu, etc., liée à la période évidemment 33-45. Et donc, ça dépasse dépasse largement le cadre du football. Et le problème, c'est que l'équipe nationale d'Allemagne représente, avec l'industrie allemande et la puissance du Deutsche Mark, les trois piliers de l'Allemagne d'après 45. Donc, si tu veux, si tu commences à avoir une équipe d'Allemagne qui, déjà, elle rafle tout, mais surtout, elle se comporte mal, ça va pas. Donc, en Allemagne, ça a été mal perçu. Sauf que tout le monde oublie que les journaux qui titrent après ce fabuleux match contre la France, c'est que l'Allemagne est en finale. C'est-à-dire que tout ce qui est de ce phénomène de ce match-là, en fait, est traité largement plus tard, pas sur l'instant. Que l'on oublie, encore une fois, oui, non, mais c'est vrai, ça. Vous regardez le match de Bild pour la première soirée. C'est 8-7, fabuleuse rencontre, 8-7, l'Allemagne est en finale, Endspiel, boum. Donc après, c'est après qu'on commence à déconstruire. Et ce qui me semble important, c'est que cette Allemagne-là, moi, ce que je traite, c'est l'ADN de la Nationalmannschaft de l'époque, qui s'est construite en 54, donc avec cette victoire, ce miracle de Berne, avec cette victoire contre les Hongrois de Puskás. C'est que l'équipe d'Allemagne ne peut que gagner. Et à l'époque, on disait l'Allemagne, et on s'en fout de savoir comment elle gagne. Et là, à l'époque, on disait l'Allemagne, lorsqu'elle a une grande génération, elle gagne, lorsqu'elle a une faible, elle est en finale. C'est-à-dire que l'équipe de France n'existe pas dans le paradigme allemand. C'est quelque chose, c'est d'ailleurs paradoxal qu'elle arrive en demi-finale lorsqu'on voit le parcours, mais n'oublions pas qu'il y a le match contre l'Algérie, la défaite contre l'Algérie qui a été très mal vécue. Mm-hmm. Il y a ce qu'en Allemagne, on appelle l'Anschluss, vous savez, le match Allemagne-Autriche.
Oui, l'arrangement.
Il n'y a pas eu d'arrangement là.
Non, là ils ont pas fait exprès là.
Mais vous auriez fait pareil.
C'était normal, c'était malheureusement normal de faire ça.
Avait besoin d'un match nul pour se qualifier et éliminer l'Algérie. Et il y a eu match nul évidemment.
Et les deux se qualifient. Non, mais il n'y avait pas que.
Il y avait une victoire 1-0. Il n'y avait pas que ça. Passe à 10 ensuite.
Il n'y avait pas que ça. C'est que si l'Autriche se livrait un petit peu trop et était battue par l'Allemagne, c'est l'Autriche qui risquait de sauter. Donc finalement, c'est pas que l'un a fait un cadeau à l'autre. C'est que les deux étaient arrangés par l'idée de faire match nul. Il faut pas voir ça comme on est cousins, on élimine l'autre.
Ça aurait été Allemagne-Brésil dans la même situation, ça aurait sans doute donné la même chose.
Exactement, comme Suède-Danemark l'ont fait en 2004.
Sauf que
c'est dégueulasse, mais il faut l'accepter.
Mais sauf qu'il y a un quotidien espagnol qui titre El Anschluss, d'accord ? Oui, en Allemagne, d'ailleurs, ça porte un autre nom. Et sauf que donc là, vous venez dire l'inverse, c'est-à-dire vous dire c'est pas ça. Et sauf qu'en Allemagne, c'est considéré comme un pacte de non-agression dans la presse allemande. D'ailleurs, c'est vachement intéressant. C'est marrant. Et en plus, pour moi, c'est ça. Maintenant, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est que cette période-là de l'Allemagne. C'est une période où les Allemands raflent tout, rappelons, champion d'Europe 72, finaliste battu au pénalty en 76, la fameuse Panenka, ils sont champions du monde en 74. Ils ont foiré en Argentine, mais tout le monde s'en fichait de toute façon de cette Coupe du Monde en Argentine, compte tenu de la dictature en Argentine, ils voulaient tous rentrer.
Ils ont le droit d'en rater une de temps en temps, et je pense qu'ils s'en foutaient pas, mais
ils en avaient strictement rien à faire.
Et les autres en avaient quelque chose à faire et pas l'Allemagne.
Les Allemands n'avaient strictement rien à faire.
Les Pays-Bas sont allés loin, le Brésil et l'Italie sont allés en demi. Bon voilà, tout le monde a joué. L'Allemagne, ils ont le droit d'en rater une de temps en temps. Après, en 80, ils sont champions d'Europe. Et en 82, ils sont favoris.
Avec une nouvelle génération, attention. Avec une nouvelle génération. Et ils arrivent en finale de Coupe du Monde. Ou d'ailleurs en Allemagne, où on est aujourd'hui toujours en train de dire... C'est toujours intéressant, parce que c'est les jeunes qui parlent de cette période-là. Moi, j'ai toujours un problème avec les jeunes qui parlent de choses qui sont passées 40 ans avant et qu'ils déconstruisent avec les yeux d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on prenne... Moi, c'est un peu la critique.
Bien sûr.
Non. Mais je voudrais justement qu'on prenne les yeux de 80 pour analyser l'équipe de France 2020, par exemple. Et par exemple, en 82, pour beaucoup d'Allemands, c'est parce qu'il manquait Bernd Schuster que l'Allemagne n'est pas championne du monde. Et qu'il était là à l'Euro 80, qu'il était la star de l'Euro 80. Comme d'ailleurs, il manquait pas à l'Euro 6, même moi, on ne fait pas défaut, à l'Euro 80 en Italie. L'idée, en fait, que moi, je dis, c'est qu'il y a un ADN allemand qui est différent d'un ADN français. La France, c'est une pucelle à l'époque. Oui, c'est une pucelle. Ça. Elle connaît rien, elle fait du beau jeu comme ça.
Fait qu'elle aille en demi, c'était une surprise pour tout le monde.
C'était pareil depuis 58.
En plus, elle n'a battu personne. Elle se prend sa tollée habituelle contre l'Angleterre. Elle passe, alors le deuxième tour, c'était l'Irlande et l'Autriche.
Contre la Tchécoslovaquie.
Contre la République tchèque, la Tchécoslovaquie, exactement.
Qui avait été très dur.
L'Allemagne, elle. Ce qu'on oublie, c'est que, la préparation était bidon, parce que les Allemands se considéraient comme tellement puissants qu'ils faisaient n'importe quoi. C'était d'ailleurs à Fribourg, près de Fribourg, c'était ce qu'on appelait la Schlurzee, donc le lac de Schlur, que tu connais peut-être, Gilbert, si vous remplacez Schlur par Schluck,
Non, pas lui, mais son grand-père peut-être, mais pas lui.
En fait, c'est le lac de Schlur, et en fait, si vous remplacez en Allemagne Schlur par Schluck, ça fait le lac des picoleurs, parce que les mecs, ils arrêtaient pas de picoler, ils amenaient des nanas, ils jouaient au tarot, ils jouaient au cartes allemand, etc. Ouais. Et ils arrivent en Espagne complètement à la ramasse. Rappelons que Paul Breitner revient en sélection allemande juste alors qu'il avait quitté entre 76 et 81 et qu'il habite juste parce qu'il habitait en Espagne et lui ça le dérangeait pas de jouer et tout est comme ça et donc ils sont quand même en finale, c'est-à-dire qu'il y avait cet ADN qui était là, qui s'est construit, l'ADN allemand s'est construit par la victoire. Et moi ce que je reproche, en fait c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec les analyses comme quoi c'est la naissance de la génération Platini Euro 84 puis évidemment la demi-finale de 86, c'est qu'en fait pour moi c'est un monde qui s'écroule. Ce monde-là, c'est le monde de Didier Pironi qui n'est plus là, c'est le monde de Laurent Fignon qui n'est plus là, c'est le monde du French Flair de rugby qui n'est plus là, c'est le monde de Roland Garros, de l'organisation à la française qui s'écroule, parce qu'il y a un autre monde qui arrive, c'est le monde libéral où c'est le culte de l'individu, et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les déclarations des joueurs allemands, dont un dont personne ne reprend l'expression, c'est Draeimler, à l'époque milieu défensif de la sélection nationale, qui dit « Moi, je suis un professionnel, le prestige et l'image de la sélection nationale, je n'en ai strictement rien à faire. » Or en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que l'équipe d'Allemagne en fait est un morpho. Je sais même plus ce que je voulais dire. Est un protomorphe de ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est le monde libéral qui arrive avec, on en a rien à foutre du maillot, on a Paul Breitner qui déconstruit complètement le mythe des 11 amis, c'est-à-dire c'est la victoire de 54, comme quoi on serre les coups tous, on va y arriver, où il dit mais attendez, on peut pas se piffrer entre nous, parce que tout ce qui nous intéresse c'est l'oseille, et en fait toute cette partie-là, on ne l'explique pas.
C'est marrant que Breitner ait dit ça pour un révolutionnaire un peu communiste.
Moi c'est un libéral communiste, Paul Breitner est un libéral communiste,
communiste, drôle de concept.
Dans son salon, il était révolutionnaire.
Tu sais, la Corée du Nord a bien inventé une monarchie communiste, hein, donc tout est possible.
Bon, bref, passons.
Non mais c'est intéressant voilà. Ce que tu dis. Et alors, va plus loin parce que la France d'aujourd'hui, tu la compares à l'Allemagne de l'époque.
Mais moi, moi, évidemment, comme les gens qui ont vécu cette période, Michel Platini, Gengini, Tigana, Bossis, etc., ce sont mes idoles de lorsque j'étais gamin. Mais ce que je n'accepte pas, c'est ce que moi j'appelle les mains sales. C'est-à-dire que la France avait les pieds propres à l'époque, parce qu'elle avait justement, elle était pucelle, elle s'est fait dépuceler dans ce match-là au passage, elle n'avait pas de palmarès, on n'attendait rien d'elle, et a fait ce match merveilleux avec le carré magique, etc., etc. Et ensuite, ce sont ce qu'on raconte pendant 40 ans, génération après génération, qu'on se refile le bébé en oubliant que ces journalistes ou même sont devenus complètement des libéraux, ils sont devenus ce que sont les Allemands de l'époque, et c'est pour ça que je dis que la France est devenue libéraux, en gagnant.
Maintenant dans le foot on dit pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a que la victoire qui mène, quoi.
C'est des libéraux, c'est bon, c'est des effets de Thatcher, quoi, ça va, quoi. La société n'existe pas, il n'y a que des individus, et on en arrive à la fin, c'est le culte de l'individu, on arrive à la fin où les joueurs de football sont devenus des symboles de la nation, et qu'il y a une seule chose qui est intéressante, c'est la performance chez eux, et vous devez toujours être comme ça dans la vie de tous les jours, donc ça va, faut aussi voir ce que c'est aussi, hein,
est-ce que vous comprenez le développement
Attends, j'ai fini ça. Moi, ouais. Ce que je critique, c'est cette France, y compris de certains supporters, qui sont devenus adeptes du dédéisme et non pas du dadaïsme. C'est-à-dire
qu'il
faut gagner. Il faut gagner, bien sûr. Il faut gagner absolument, comme les Allemands des années 80. Et non pas dans la beauté de ce qui était l'équipe de France. Et c'est pour ça que pour moi, cette France a complètement disparu. Et les gens qui passent leur vie à écrire en disant, ces salauds d'Allemands des années 80, etc., ce sont les mêmes aujourd'hui qui écrivent des choses magnifiques, sur l'équipe de France, championne du monde 2018, qui est complètement pourrie. Et que c'était la même chose en 1998. C'est ce que moi j'écris. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on balance pas autant de saloperies comme on a envoyé à l'époque aux Allemands. C'est tout.
Je précise que Polo a écrit un texte très long qui reprend toutes ses idées sur sa page Facebook. Hein. Polo Breitner, P-O-L-O, bon, bien sûr.
À travers cette analyse, donc, il y a une forme de dénonciation de ce qui est devenu le football, où il n'y aurait plus réellement d'idéologie, d'idées sur le jeu, un petit peu détachées du résultat. Quand certains entraîneurs parlent de ce genre de choses, notamment, on va dire, l'école Guardiola et ses disciples qui disent que la manière est plus importante que le résultat. Effectivement, souvent ils se font tailler. Et même au Bayern, quand il y est venu, on lui a également un petit peu reproché ce genre de discours. L'efficacité à tout prix dans nos sociétés, bon, bah oui, c'est un constat, Polo. tu as le droit de dénoncer, qu'on peut faire ensemble d'ailleurs dans, sous plein d'aspects. Oui, le football est devenu le moteur du foot, c'est l'économie, c'est le résultat, c'est la performance. Maintenant, à travers la recherche de la performance, on sait qu'on peut y arriver de différentes façons. Que les Français aujourd'hui, moi, je ne crois pas qu'on, quand on parle de ce fameux match-là, c'est pas vraiment sous le plan du jeu qu'on le fait. C'est il y a autant une autocritique en disant quand tu mènes 3-1, ça aurait été bien. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Platini déjà à l'époque en disant après tout. Lui qui n'était pas encore en Italie mais qui s'apprêtait à y aller apprendra plus tard que quand on mène 3-1 on doit pas perdre un match, et souvent lui-même a critiqué un petit peu le fait qu'il n'ait pas su conserver le résultat à l'époque. Avec le recul, ce match, c'est pas tant sur nous on avait le beau jeu, eux ils avaient pas le jeu, c'est juste les circonstances absolument dramatiques de la rencontre et tous les souvenirs qui ont fait qu'évidemment on a évoqué la guerre, que l'Allemand c'était le méchant, mais c'était ça n'avait rien à voir avec le côté libéral, économique, la manière d'arriver à la performance. Ça ramenait à la guerre.
Côté français,
ça ramenait moi le souvenir que j'en avais, les films que je regardais quand on était jeune ado, les films de guerre qui passaient le mardi soir et tout ça. L'Allemand de toute façon était méchant, on n'avait pas encore enlevé à l'Allemand l'étiquette du méchant. Donc on le retrouvait à travers ce match-là.
Ah oui, et toute la France a symbolisé ça en fait.
La France du foot est carrément née. La France du foot est pratiquement née. Elle balbutiait avec Saint-Etienne. Un peu plus avec 78, mais avec le décalage horaire, de toute façon personne n'avait vu les matchs.
Daniel,
et 82, on redécouvre le foot.
Non, mais
vas-y Polo.
Oui, mais Saint-Etienne avec le Bayern,
c'est intéressant.
Oui, mais ça collait pas.
Mais justement, le problème, c'est les poteaux carrés. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mysticisme, il y a toujours un ésotérisme français par rapport à ça.
Non mais là, tu as raison, c'est autre chose.
Oui, mais ça c'est parce que les Français aiment le gagnant, le perdant fantastique aussi.
Non, ils l'ont aimé de force. C'est pas pareil, c'est qu'ils l'ont aimé, de force, j'ai bien. C'est parce qu'il n'y avait pas autre chose à aimer.
Regarde, la France était pro-Poulidor alors qu'Anctil gagnait, était français, tu vois.
Évidemment.
Donc non, il y a quand même un truc par rapport à la défaite.
Non, je ne suis pas d'accord. Anctil Poulidor, ça n'a rien à voir avec ça. Anctil Poulidor, c'est la France a aimé Poulidor pour ce qu'il représentait, c'est-à-dire la France du peuple, la France des paysans. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il perde par rapport à Anctil qui gagnait. Anctil représentait le pouvoir, l'argent, la France de Poulidor, Paris, des salons.
Il était sympa, souriant, alors que l'autre était fermé, froid.
C'était pas parce qu'il perdait qu'on l'aimait. C'était on l'aime même s'il perd. C'est pas la même chose. C'est on l'aime même s'il perd parce qu'il nous représente, nous. Le Tour de France, c'est une épreuve populaire dans une France qui est encore rurale en majorité à l'époque, et on l'aime pour ce qu'il représente, et Anctil moins parce qu'il est froid, parce qu'il fait il fait France de la haute, quoi. Voilà, c'est pas, il faut le mythe de la France
aussi, en vrai, mais bon.
le mythe de la France où on aime le perdant, machin, ça c'est un petit peu des conneries. C'est parce que il n'y avait rien d'autre à aimer, parce que dans le sport on a pris énormément de retard en France, et donc comme il n'y avait rien d'autre à aimer, notamment dans le foot, on a aimé ce qu'il y avait. On a aimé Saint-Etienne pas parce qu'ils ont perdu et qu'ils étaient beaux, parce que Saint-Etienne, c'était pas particulièrement beau, mais c'était tout ce qu'il y avait. C'était notre club en France, c'était le seul.
C'était pas tout ce qu'il y avait.
En France, il y avait que Saint-Etienne.
Saint-Etienne représentait une culture Saint-Etienne et populaire le dans toute la France.
Mais c'était les seuls qui représentaient quelque chose, un ADN.
Mais Polo, c'était les seuls qui existaient. Donc tu les aimais, peu importe que tu sois ouvrier ou pas.
J'aimerais que.
Bien sûr, mais tu représentais la France parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Daniel, s'il vous plaît. Laure, Jérôme.
Je sais pas, j'ai pas trop compris le truc, c'est qu'encore en France on critiquait les années 80 du jeu allemand, c'est ça en gros, et que
on critiquait gros,
nous, on était beau, nous on était beau, et puis ils étaient laids,
moi
quoi.
Je vous arrête là-dessus. À l'époque, pardon, alors moi que je me trompe, mais il n'y avait pas d'analyse de jeu à l'époque. Hein.
En plus.
Personne disait.
Les analyses sur le jeu, les systèmes de jeu,
T'avais Giresse d'un côté contre Brigueul, le décathlonien de l'autre. Il y avait aussi des images qui étaient très formidables.
Ouais, c'était très schématique.
Du vestiaire, il y avait.
C'était très schématique.
Mais bon, après, tu peux gagner en étant beau, tu gagnes en étant moche. L'essentiel dans le foot, c'est aussi de gagner, quoi. Ce que je veux dire. dire les.
Eh ben non, je suis pas d'accord.
Si.
Et on en arrive dans la porosité de la société.
Mais c'est pas la porosité.
C'est pas ça.
Mais non, parce que toi t'es placé du côté où t'analyses. Même moi aujourd'hui, je suis là, j'analyse ce qui se passe. Mais le plus important, quand t'es un footballeur, quand t'es dans un staff, c'est de gagner. Arrêtez avec votre délire de. Après, il y a des façons de gagner. Attention, il y a ce que veut mettre en place l'entraîneur, la façon, et Daniel le disait, t'as les méthodes Guardiola et la méthode Diego Simeone. Mais lui, Diego Simeone et Guardiola, le but qu'ils ont, c'est de gagner le match. Et les joueurs, c'est de gagner. Donc après, que tu sois beau ou pas beau, ils en ont rien à foutre du moment qu'ils gagnent. Et que nous, là, on est en train d'aller. Ah oui, c'est sûr, moi, je préfère voir une équipe flamboyante, spectaculaire et qui gagne les matchs. Et c'est quand même plus facile à analyser.
Dans quelques instants, Laurent aura la parole et puis on aura un peu d'actuellement de tout avec Polo pour revenir en 2020, puisqu'il s'est passé des trucs aujourd'hui. Polo reste avec nous. On revient dans quelques instants dans l'after. Et n'oubliez pas le quiz dans une vingtaine de minutes avec Julien Cazard.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Oui, c'est chargé.
Laure Le Bailleur, Jérôme Rantaine, Daniel Riolo sont là. Avant de passer au sujet suivant, Laure, tu veux rajouter un truc sur ce que tu as entendu?
Non, pas spécialement, mais moi par contre je rejoins Jérôme sur ce qu'il a dit avant la pub. C'est que effectivement, je suis désolée Polo, mais c'est vrai que Jérôme il a raison par rapport au fait que gagner ça doit être ta seule préoccupation. Quand t'es joueur, effectivement t'aimerais gagner de belle manière.
Lorsque tu es joueur.
Ouais. Lorsque
la porosité se fait dans la société et que la société de la performance systématiquement, permette-moi de ne pas être d'accord avec cette vision des choses.
Très bien. T'es pas d'accord.
D'accord,
Polo.
C'est pas grave. Merci, Polo.
J'allais faire le parallèle avec justement l'équipe féminine, parce que par exemple, moi, dans mes premières années avec l'équipe de France, on souffrait beaucoup parce que justement, il y avait cette rigueur tactique, ce physique qui était imposé par les Allemandes. Et nous, d'un autre côté, on avait notre jeu technique un peu léché, offensif. Et ben, on s'est aussi un peu ravisé là-dessus. C'est qu'à un moment donné, on a travaillé un petit peu plus physiquement, parce que pour rivaliser, on a aussi changé un peu les façons de faire. Et l'évolution, elle a été aussi dans ce sens. Et finalement, ça s'est un petit peu resserré sur les niveaux des nations.
Alors, on en arrive à l'actu.
On n'a plus le temps parce que je voulais répondre à Laure et à la différence d'appréciation entre le sportif et l'autre.
Rapidos, après on passe à l'actu.
Et je ne sais pas si c'est rapidos, on pourra en reparler un soir. De toute façon, on a du temps prochainement. Mais en fait, moi je comprends ce que vous dites, Laure et Jérôme, parce que forcément, vu votre cursus, vous êtes formaté des petits. Et pour être indirectement également dans un process de formation de ce qui peut être un jour un petit champion, je sais ce qu'on met dans la tête des gens qui font le sport comme vous. Oui, il faut gagner, et peu importe comment, et sauf si après, dans votre carrière, vous rencontrez des entraîneurs qui vous font un petit peu changer cette idée initiale avec laquelle vous grandissez, et on peut absolument pas vous reprocher. Mais il y a des joueurs qui, en preuve que vous n'êtes pas tous pareils, il y a des joueurs qui, en fréquentant des entraîneurs ou avec un cursus de formation un peu différent, ne disent pas la même chose que vous. Ceux qui ont été sous Guardiola, les Xabi, Iniesta, ils ne disent pas la même chose que vous.
Mais ils gagnent. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu me racontes?
Ils ne disent pas la même chose que vous.
Mais c'est pas un échec.
Le même discours que toi. Il n'a pas le même discours que toi.
Mais ça n'a rien à voir comme discours. Mais c'est tout à fait logique. Si j'étais passé dans les mains de Guardiola,
c'est une affaire de formation et de.
Mais non, pas du tout, de formation mentale. Mais non, parce qu'il n'y a pas que Guardiola qui a ces idées-là, Daniel. Moi, j'en ai eu des entraîneurs qui ont ces idées-là, et même à la formation, et ils m'ont inculqué ça dans la tête. Bien sûr que vaut mieux être bon. T'as plus de chances de gagner quand tu t'es sûr. Tu maîtrises la façon de jouer et ce que veut mettre en place un entraîneur, plutôt que quand tu maîtrises pas les événements et que tu te recroquevilles et que tu joues, advienne que pourra.
Donc là-dessus, j'entends. De toute façon, c'est normal par rapport à votre formation. Ensuite, vous ne pouvez pas. Le sport, c'est une unité. Le sport, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et ce que vous devenez ensuite, c'est-à-dire la façon dont vous allez rester dans la mémoire des gens, dans l'affect des gens, si vous vous plaignez tout le temps que du huis clos qui est une catastrophe pour le football, c'est que vous avez besoin des gens qui vous regardent.
C'est logique.
Le reflet, ce que vous donnez aux gens, les gens vous le rendent. En fait, c'est un échange. Nous, les journalistes, on est au milieu, en fait. Après, nous, on peut avoir nos idées de préférer ceci ou de préférer cela. À la limite, nous, on est presque dans cette relation que vous avez avec les gens. Et nous, indirectement, si on parle des années où on n'était pas journaliste, c'est comment vous nous marquez. Le champion ne reste pas dans les mémoires uniquement parce qu'il gagne. Ça, ça n'existe pas. Le champion, il reste dans les mémoires pour ce qu'il a représenté, pour ce qu'il a été en tant qu'homme. Parce que des champions qu'ont gagné beaucoup, mais qui n'ont pas vraiment marqué les gens, ou qui ont été juste des gars qui ont empilé les titres, il y en a eu beaucoup. Des mecs, soit qui n'avaient pas de charisme, soit qui n'étaient pas vraiment agréables. Et en revanche, à l'inverse, des mecs qui ont gagné une seule fois ou deux fois, comparé à un mec qui a gagné 10 fois, mais qui sont restés des champions dans le cœur des gens,
ou
Mais évidemment, mais on n'est pas en train de parler du mec qui a jamais gagné, Jérôme, forcément.
Je ne te parle
pas du mec qui a jamais rien fait, sinon on n'en parle même pas parce qu'on le connaît pas. Ouais, mais il y a des nuances. J'aimerais que tu comprennes. La nuance. Aujourd'hui, si peut-être que je sais pas moi dans combien d'années, c'est toujours difficile à dire. Mais si les mecs les Bleus des années 80, et tu le dis toi souvent, ont autant marqué, alors que bon, ils ont gagné en 84, mais dans les Coupes du Monde, ils n'ont pas gagné. Ils ont peut-être autant marqué les gens, en tout cas ceux de ma génération, que ceux de 98. Alors ceux qui étaient petits en 98, qui n'ont pas gagné les années 80, forcément ils ne sont marqués que par eux. Mais pour les plus anciens, à la limite, dans l'affect et dans le ressenti que tu as par rapport au champion, qu'il ait perdu ou gagné, c'est la même chose. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose. Tu vois, le charisme d'un sportif, ce qu'il donne au public, comment il est ressenti, c'est super important aussi.
Non, mais on est d'accord.
Ça peut pas être uniquement le fait de gagner ou de perdre qui emporte la mise. Il y a autre chose. Après, si le mec il a jamais rien gagné, bah oui, de toute façon t'en entends pas parler, tu sais pas qui c'est, tu vois, forcément.
Pour conclure avec toi, j'aimerais que tu nous
racontes. D'accord, Polo, avec ce que j'ai dit, non?
Ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors attends, Daniel, parce qu'on peut pas, sinon on n'aura pas le temps de tout placer avant minuit. Raconte, Polo, les gens du Bayern.
Je vous remercie quand même d'avoir. Ouais.
Non, mais c'est lui qui traverse.
Pantalonnade.
Les joueurs du Bayern.
C'est insupportable.
Les joueurs du Bayern acceptent une baisse de salaire. Voilà, c'est une information.
Les millionnaires acceptent. Les millionnaires acceptent.
Mais qu'est-ce que c'est que cette réflexion?
Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette réflexion?
Bah oui, bah c'est
Polo, je suis désolé, même si le mec il soit millionnaire, milliardaire, non, ou qu'il ait 10 balles en poche, il donne.
C'est pour sauver un système. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'analyse pas le système.
En l'occurrence, il n'y a pas un système à sauver. Il y a des gens qui sont dans la merde et qu'il faut aider, tu les aides.
Et pour, ben, c'est à l'État de les aider. C'est à l'État de prendre ce qu'il faut à ceux qui gagnent énormément d'argent.
Que l'État. Ah oui, mais tu crois qu'il en prend pas assez déjà ?
C'est pas ce qui se passe depuis 40 ans. Et c'est bizarre.
Il faut qu'ils prennent combien ?
Quand 1% de la population mondiale.
On va s'arrêter là.
Combien tu veux prendre ?
82% des richesses.
Et comment tu fais ? Et comment tu fais ? Comment tu fais pour le faire ? Comment tu fais? Tu fais un gouvernement mondial pour faire ça, Polo? De quoi tu parles? Bon, tu veux l'universalisme communiste? De quoi tu parles?
J'ai donné l'information. Okay,
il faut que tout le monde se mette d'accord pour arriver à faire ce que tu veux.
Si tous les pays ne se mettent pas d'accord, Polo, continue ton petit discours là.
Polo, essaye d'écouter. Si tout le monde ne se met pas d'accord,
essaye de lire. Arrête le Figaro et commence à lire des choses intéressantes.
Si tout le monde ne se met pas d'accord, c'est impossible.
C'est toi qui dis ça? C'est impossible.
Ta révolution ne peut marcher que si tout le monde se met d'accord. Si personne ne se met d'accord, t'auras des pays qui feront d'autres choses et pas les autres. Tu vois ce que tu veux. Tu vas faire quoi? Tu vas brûler tout le monde au lance-flammes. De quoi tu parles, Polo? Voyons.
Longue et intéressante sur France RFA. Salut, Polo, à bientôt. Les gars.
Je vous embrasse. Ciao.
Ouais, nous aussi on t'embrasse. Salut. Allez,
on va forcer tous les gens à se soumettre.
Top. Ismaël est là, Daniel, d'Autriche, il est confiné aussi, devait être avec nous hier. Oui, parce qu'Ismaël écoute l'after et hier il voulait nous donner son top 5 des joueurs techniques issus de la Ligue 1. J'aimerais qu'il puisse s'exprimer avant qu'il prenne la marée de tout le monde. Donc laissez-le parler. Ismaël, bonsoir.
Ouais, bonsoir Gilbert. Ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Bah écoute, tranquillement. Une petite dédicace spéciale à Daniel. Il est complètement resté dans mon cœur le moment où il a dit que, en gros, c'est pas parce qu'on avait distribué Twitter à 6 millions de débiles que les opinions se valent. Alors, je voudrais
Ça, c'est certain.
Je suis totalement d'accord avec ça. Te raconter un peu l'histoire de comment j'ai voulu trouver ces 5 joueurs. Parce que figure-toi, j'ai écouté le podcast hier. J'étais en plein truc, etc. Puis, Je suis assis sur mon canapé pendant une demi-heure pour les trouver. Et en fait, j'y arrivais pas, tu vois. Donc,
pour trouver cinq joueurs français techniques issus de la formation française.
Issus de la formation française.
C'était pas, donc, c'était, le propos était pas, a été entendu de cette façon nette, parce qu'après Pierre a parlé, je crois que Jérôme aussi, j'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais vraiment dire, mais je t'écoute, vas-y, dis ce que tu voulais dire.
Alors, tu me diras ensuite si t'es d'accord ou pas.
Oui, vas-y.
En fait, je suis d'accord avec toi. C'est juste que par esprit de contradiction, j'ai voulu en trouver cinq. Donc j'ai cité Nasri.
Qui ça?
Nasri.
Ah oui, d'accord, ouais.
Benzema, évidemment, on l'a cité.
Pjanic. Benzema, c'est, je l'ai dit l'autre soir, pour moi, c'est la seule exception.
Nasri, Benzema, t'as mis Pjanic.
J'ai mis Pjanic. J'ai mis Eden Hazard. Alors je sais que je me suis fait tailler un costume hier à ce propos-là, mais...
Non, mais vas-y, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer.
Et le cinquième?
Et j'ai mis, après, dans une moindre mesure, des gens qui ont moins réussi. C'est-à-dire Ben Yedder, Fekir... Tu vois, ces gens-là, ils ont été exportés vers... Enfin, ces joueurs-là ont été exportés de la Ligue 1.
Pas avec, tu vois, Ben Yedder, j'avais pas pensé, mais peut-être que lui fait pas, lui est peut-être l'autre exception. Vas-y, je te laisse continuer. Pas,
Ribéry, non?
Et Ribéry, on a
Ribéry, il n'est pas formation française, Ribéry.
Bah, il est quoi?
Il n'est pas Boulogne, Ribéry.
Vous blaguez?
Si, il a été viré plusieurs fois, mais il est formation.
Mais oui. Non. Ribéry, il est tout sauf formation française. Il est parcours atypique.
Bah, à ce moment-là, Ben Yedder aussi.
Non, mais c'est parce que.
Exactement. C'est des parcours cabossés.
Mais il a quand même été dans les centres de formation.
Non, c'est un parcours cabossé. Les mecs, moi, je parlais des mecs.
On s'en fout du parcours.
Non, c'est la base de mon discours, elle est là, justement.
Si le mec, il a changé 10 fois de club parce qu'il s'est fait virer, mais qu'il a été formé en France.
Attention, Ribéry s'est fait éjecter très vite du centre de formation de Lille et après, il était chez les amateurs.
Ribéry, il a fait parcours amateur, il a fait comme N'Golo Kanté, il a fait comme un tas de mecs, il a fait comme tous ceux qui ont été virés très tôt, qui sont partis à l'étranger pour parfaire leur jeu, comme Riyad Mahrez, comme tous ces mecs-là.
Oui, Ismaël, vas-y.
Là, du coup, est-ce que tu peux définir tes termes de... Est-ce que tu définissais par le joueur de Ligue 1 issu de la formation française et qui est parti à l'étranger?
Alors, en fait, le truc, c'était... D'abord, quand je parlais de technique, je parlais aussi du QI football. Et ce que je voulais dire également, c'est le gars qui s'impose au très haut niveau dans une équipe, comme on va dire, un leader technique, un leader, un mec derrière l'équipe, que l'équipe va suivre, quoi. Tu vois, un patron d'équipe. Voilà.
Ah oui.
Ça,
ouais,
en gros, ce que je voulais dire, c'est la seule exception du mec qui avait fait formation française, carrière en Ligue 1, je pars à l'étranger et je deviens une vedette à l'étranger, c'est-à-dire je deviens un grand joueur, le seul, l'unique, c'est Karim Benzema. Il y a des joueurs techniques, évidemment, que si tu me parles de Nasri, il n'y a pas de problème. Ce mec-là, évidemment, tout le monde sait qu'il joue au ballon. Mais une fois qu'il est parti, il a rencontré beaucoup de difficultés d'adaptation pour s'imposer dans les équipes, carrière internationale faible. Plein de mecs, il y en a d'autres, des comme ça. Et après, il y a ceux qui partent, c'est-à-dire nos joyaux de la formation, sont des mecs dont la principale qualité, c'est autre chose. Vitesse, percussion, élimination. Mais il n'y a pas, l'un dedans, il n'y a pas de patron d'équipe. Tu n'as pas de mecs qu'on forme, tu vois, des mecs charismatiques. Tu vois, si tu prends Ousmane Dembélé, même Martial, qui est pour toi dans une bonne phase en ce moment, tout ça.
Coman.
Et les mecs, finalement. Mais Coman, c'est une vitesse, percussion, il est souvent blessé, il n'est pas réellement non plus lui, dans un process de je vais être le patron au Bayern, je vais être un grand joueur, je vais être un joueur accessoire d'une équipe. Non, mais... l'exception en 20 ans, c'est Benzema. Des joueurs techniques, évidemment qu'il y en a eu.
Mais la génération 98,
la conclusion de Jérôme, et après on relance pas. Vas-y, Jérôme.
Mais quoi? La génération 98, moi, je te parle sur les 20 dernières années. Et 98, évidemment, c'est l'exception. Alors,
c'est l'exception, mais il y a
98. Mais non, c'est en fait il y a une cassure. 98, effectivement, c'est justement mon bon exemple. C'est des mecs qui étaient formés en France dans un football qui marchait beaucoup mieux. Les années 90 en France sont une réussite. Beaucoup de clubs réussissent en Coupe d'Europe et font des bons parcours. Il y a quand même deux Coupes d'Europe pour les clubs français, les deux seuls de notre histoire qui sont là. Tu as des clubs qui vont loin dans les Coupes d'Europe, Auxerre, Nantes, Bordeaux, tout le monde connaît ces aventures-là. Tu as des mecs qui, formés en France, aventure de club en France, Deschamps, De Saïs, Zidane, Thuram qui a joué à Monaco, ouais. Petit, c'est des mecs qui ensuite partent à l'étranger et à l'étranger font des belle carrière internationale, mais gagne des titres,
champion, c'est normal parce qu'ils sont jeunes.
Mot de la fin pour Jérôme.
Mais la formation,
il y avait une construction Jérôme, qui suivait son cours. Aujourd'hui, le môme, il part à 18 ans, 20 ans, soit il réussit à l'étranger, soit il échoue, mais de toute façon, il apprend pas assez. Il apprend pas assez
Top.
Chez nous.
Jérôme, le mot de la fin pour toi, les autres ne te parlent plus.
Ouais, non, mais
en fait, il y a des contradictions dans ce que tu dis, Daniel, parce que forcément, il y a des contre-exemples et il y en a plein des joueurs
donne-moi-en
aujourd'hui.
Donne-moi-en un.
Alors un joueur de la dernière génération qui est formé.
Là, l'actuel. Prends les champions du monde 2018.
Champion du monde 2018. Kimpembe, il est bien formé en France.
Kimpembe, c'est, je veux dire, on parlait des joueurs capables d'être patron technique. Enfin, c'est un défenseur un peu.
Ah bah oui, non, mais après ça dépend. Non,
c'est
mais
c'est un très bon défenseur, mais je ne si parlais pas vraiment de ces postes-là, moi.
Si
je parlais pas vraiment
joueurs...
de ces postes-là. Kimpembe,
tu me parles des joueurs offensifs. Tu me parles des joueurs offensifs, créateurs, quoi. C'est ça.
Non, mais même. Enfin, Kimpembe, c'est pas la. Oui, bon, ok, si tu veux, franchement, je pensais vraiment pas.
Ouais, bon, après, c'est pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur du joueur, mais si t'en as d'autres, du très bon joueur ou du bon joueur.
Juste pour finir et pour donner raison à Daniel,
c'est pas un patron d'équipe.
Il y a des exceptions, bien sûr, il y en aura toujours de toute façon, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que la formation française, elle est partie en vrille depuis un bon nombre d'années. Ça, je suis d'accord avec Daniel là-dessus.
Dans quelques instants, c'est le quiz. Et on remercie Ismaël au 32-16. Tiens, on a eu Michael Elsner ce soir. Je vous signale que d'ores et déjà demain, nous aurons avec nous Alain Perrin pour reconstituer le duo magique. Jérôme Rotten, Alain Perrin, qui va nous parler de foot.
J'espère qu'on aura des secrets.
Des secrets, oui, mais comment il est à la retraite? C'est pas possible. Il faut qu'il reprenne du service, Alain. Là.
Dans moins d'une minute, on est de retour avec Julien Cazard et le quiz. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Laure Le Payeur et Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous.
Mon
petit
Julien, avant que le quiz démarre, je reçois un message de Jean-Louis, qui est un fidèle de l'acteur de la première heure, qui nous dit, les mecs, en ce moment, vous êtes bons. Super émissions, super moments. Mais juste un truc, dédramatiser le quiz. On s'en fout de savoir qui gagne, qui se fait fourrer, qui triche. Nous, on veut se marrer. Voilà ce que nous dit Jean-Louis. On le sait que Jérôme
C'est sûr, c'est jamais toi qui te fais fourrer, donc.
Ah voilà, ça y est, ça commence.
Voilà.
Jean-Louis dit, nous on ne veut pas d'abandon dans le quiz comme hier soir. Poulidor, il s'est fait fourrer, ça n'a pas empêché de continuer. Voilà. Et surtout, dit Jean-Louis, Poulidor, on veut du casard.
Comme nous, hein.
Voilà ce que dit Jean-Louis. Que
non, mais écoutez, moi je comprends pas, parce que moi je suis donc l'auteur de ces quiz et l'arbitre. Je suis d'une probité.
Bah oui.
Franchement, on dirait Eric Wirth, le même.
Hier soir, je n'ai même trop occupé à écouter Gilbert jouer avec Julien. J'ai même pas corrigé Julien quand il a dit que Bruno Germain était titulaire dans PSG.
Non, il rentre pour le match.
Oui, exact, c'est vrai. C'est vrai.
Il rentre en cours de match, c'est ça?
Bah oui.
Moi aussi, j'ai failli raccrocher.
Je m'en suis.
Après, pour un Toulousain, c'est pas grave, tu peux te tromper.
On écoutait le duo, nous. Ouais,
Daniel, comme tu t'en es rendu compte après comme moi, c'est pas
Ah non non, moi je m'en suis pas rendu compte après, mais sauf que hier soir je
écoute, on le saura jamais puisque tu ne l'as pas dit. Alors on va commencer.
Je connais à peu près la compo par cœur de ce match, mais
tu t'es trompé sur d'autres choses, t'inquiète pas. Alors attends, on va oui. Bien sûr. On va commencer tout de suite le jeu. Est-ce que Daniel participe ou pas? C'est important de le savoir. Non. Oui. Jérôme et Daniel ne jouent pas. Donc ça va être avec Laure et Gilbert qui est avec nous pour jouer ce soir.
Benjamin est là. Salut Benjamin.
Salut à tous. Salut Laure.
Benjamin, je te laisse.
Bonsoir Benjamin.
Laure ou Gilbert? Tu veux Laure ou Gilbert?
Non, mais ou Daniel ou Jérôme?
Prends Gilbert, je te conseille de prendre Gilbert.
Je vais prendre Gilbert.
Très bien. Excellent.
J'ai bien raison.
Alors, on va commencer par un petit kick-up-a-di tout simple. Vraiment, mais là, c'est celui-là, il est cadeau. Attention. Franchement, mon statut de maire m'oblige à une certaine réserve. Je laisse les décisions aux instances du foot. Entre nous, Liverpool, cette année, ils sont à la masse. Et les battes n'avaient aucune valeur. De toute façon, je suis socios du Barça. Vive la Catalogne libre et vive Griezmann.
Valls. Bah, le maire de Barcelone.
Le maire, non, c'est pas le maire de Barcelone, t'es pas loin. Hein, c'est le maire de. Vous n'avez pas suivi.
Bah, si.
C'était le maire de Madrid. Le maire de Madrid. Ouais, et oui, vous avez pas vu.
Le maire de Madrid.
Mais non, mais tu disais le maire de Madrid, ça m'allait très bien. Hein.
Ah,
vous n'avez
oui,
pas vu ce qu'il a dit.
Oui, il veut l'Atlético qualifier d'office.
Il voulait que l'Atlético soit qualifié parce que
qu'ils ont battu Liverpool.
Ils ont battu Liverpool champion d'île. Il voulait qu'on leur attribue carrément.
Ah, oui.
Alors qu'il avait déjà été. Il avait été. Ah ouais, puis le mec. Il avait déjà été pris en photo, il s'était tweeté avec le maillot de l'Atletico, mais en toute discrétion. Tout va très bien. Bon, bah, écoute, personne n'a le point, c'est pas grave. On va se faire un petit quoiqué kiff-kiff. Bon, celui-là, on commence doucement. Attention, Gorian Spiegel, Talbanin,
les joueurs israéliens qui ont joué en France.
Israéliens qui ont joué en France, Gilbert.
Non, mais sans déconner.
Attention, je te les sors tous. Gorian Spiegel, Talbanin, Loderschei Spilger, Alon Mizrahi, Ben Sarr. Mec, avec ça, tu peux te faire. Là, t'es tranquille.
Loderschei Spilger qui a joué à Strasbourg.
Bien sûr, bah, c'est pour
surtout,
ça que j'ai placé.
Surtout au PSG. Hein. Ah. Quand ouais, il arrive, c'est le transfert du PSG de Daniel Echter. Hein,
exactement, 74, je crois, c'est ça. C'est comme ça. Pas très loin. Attention, Bayern, Juventus, Ajax, Milan, Dortmund, Porto.
Ah non, ils ont gagné.
Manchester United, Real Madrid. Non. Bayern, Juventus, Ajax, Milan, Dortmund, Porto, Manchester United, Real Madrid.
Ils n'ont pas gagné les trois Coupes d'Europe, mais on l'a déjà fait ça, non ?
Non. C'est lié à la Coupe d'Europe indirectement.
Ils ont été Bayern. Champions l'année où ils ont gagné la Coupe d'Europe.
Non. C'est lié à la Ligue des Champions. C'est directement lié à la Ligue des Champions.
Ouais, ils en ont
c'est
gagné une conséquence. Un
le PSG c'est... qui a éliminé ces équipes-là.
Oui, tu es mon pauvre ami. Ça pourrait être vrai. La Juventus, tu m'expliqueras la Juventus.
Il y avait la Continental après.
Ils ont tous gagné la Coupe Intercontinentale. Ce sont les clubs qui ont gagné la Coupe. Les clubs européens qui ont gagné la Coupe Intercontinentale. Il n'y en a pas tant que ça. Finalement, c'est beaucoup des équipes sud-américaines, surtout quand ça a été en match sec. Donc voilà. La Juventus, je rêve de l'avoir éliminée, mais moi j'ai pas souvenir de que le PSG ait éliminé.
J'ai pas entendu la Juve.
Je t'en prie, mon poulet. Attention, Delionis, Pius Ndiaye, Sergei Semak, Walter Pondiani.
Waouh, ils ont marqué contre le PSG forcément. Mais
Sergei Semak, Walter Pondiani.
Ils ont mis des triplés contre le PSG.
Oui, Pius Ndiaye, il t'a mis un triplé,
Mais je jouais pas, je m'en souviens pas.
C'est jamais ta faute.
Quelle année?
Ouais, ça doit être l'année où il y a Vaïd.
Non, mais
les 5 buts de Sedan,
ah non, mais je suis pas là. Non, les 5 buts, c'était Bergerot, avec Bergerot.
Ah, c'est Bergerot.
Il est pas là, Jérôme, il est encore enfant à l'époque.
C'est Bergerot. C'est avant que Luis Fernandez le remplace, t'as raison.
Ouais, c'est ça.
C'était pour chauffer. Attention. Oui, t'en as vécu des branlées, mais faut tu les as pas toutes faites non plus.
Non, attention. Et déjà, tu sais, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que.
Il a mis un triplé, ouais.
Ils en ont pris 5 paris à Sedan et 15 jours après ils sont venus à 3 où je jouais, ils en ont pris 5 aussi et Bergerot a sauté.
Et vous aviez un espèce de Yougoslave, non, à 3 qui a mis une frappe d'improbable,
non, Bergerot il a sauté après Sedan, Jérôme.
Ah ben c'est alors c'est l'inverse.
C'est 3 d'abord et Sedan ensuite.
Ouais. Il y avait un mec qui avait mis un coup franc de 35 mètres à 3. Pleine lucarne.
Karl Touren.
Ah non, c'était moi.
Non, mais attends, Gilbert, tu crois vraiment que si le mec, il te parle d'un gars qui a marqué un coup franc, c'est pas lui?
C'est pour ça que
je dis
Karl Touren.
Moi, je me suis fait avoir. J'aurais parce que tous les 10 mètres, ça me semblait un peu loin pour lui.
Non, bah, tu verras, bah, tape, tu
attends,
verras.
Combien tu dis de mètres,
Gilbert? 30 mètres. 30.
Ouais, et tu sais quoi, je pense qu'il a 25
mètres
de souvenir.
Non,
mais regardez.
Non, c'est 25 mètres.
Non, par contre, il y a un autre mec qui a mis. Il y a un autre mec qui a mis 3 passes décisives dans ce match-là aussi.
C'est Karl Touren.
Et non, c'est moi.
Bon allez, quoi qu'il kiff, vous êtes prêts? Wea, Shevchenko, Dorasso, Kaladze.
Ils ont joué à Milan?
Non, ils ont fait de la politique après leur carrière de footballeur.
C'était le piège, Milan. C'était comme quoi, tu vois, fréquenter Berlusconi, ça donne des idées.
Change de jeu, Gilbert est trop fort là.
Allez, un point score.
Benjamin et moi 3, Daniel 1, Jérôme et Laure 0.
Bon allez, un petit coup. Je vous rappelle que nous avons vécu le décès de Uderzo. Évidemment, Astérix est orphelin.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, on va faire un petit quiz hommage à Uderzo.
Ah.
Alors voilà, attention, quiz hommage à Astérix. De quel club français Obélix aurait-il pu être supporter en raison de la mascotte du club?
Guingamp.
Non, pas du tout.
Sedan.
Ah, oui. À cause du sanglier. Mais oui, le sanglier des Ardennes. Bravo Benji, t'es au top.
Césarine.
Attention, Césarine, on l'embrasse. Enfin, de la
ah ouais, bah, du moins, non.
Uderzo la rejoint. Uderzo la rejoint. Attention, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, comment s'appelle Zinedine Zidane?
Zinedine Zidane.
Non, non. C'est simple, hein. C'est assez simple, hein.
Zizou.
Je vous rappelle que ça finit.
Zidanix.
Non, il est romain. Il a un nom romain.
Zizoux.
Zidanus.
Zidanus. Non, c'est un is. Ça finit en is.
Zidanis.
Non, c'est lié plutôt Zouzis. À son poste. À son poste.
Numéro 10.
Numéro 10. Non, Daniel a dit numéro 10. Bon, ça passe. Allez, numéro 10. C'est ça, numéro oh. 10. Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être numéro 10.
Je sais pas.
Si, on te le compte parce que je crois que t'as raison, c'est numéro 10. Non, il est raison, il est gaulois.
Je l'ai pas vu le film, je sais pas.
Oh. Attention, quel autre ancien joueur de foot, beaucoup moins connu que son frère, jouait aussi dans ce film? Hein? Ah, un ancien joueur de foot.
Joël Cantona.
Joël Cantona, Gilbert. Bien joué.
Oh.
Attention, dans l'after foot, à qui pourrait-on donner le nom d'idée fixe?
Daniel Riolo. Moi j'en ai un autre. À qui pourrait donner le nom de détritus?
Mais oui, mais c'est pareil.
Non,
c'est
Jérôme Bretagne.
Ah oui, Jérôme Bretagne, tu crois? Non, Jérôme Bretagne. Non, détritus, c'est celui qui fout la merde. C'est bah, pas c'est celui qui s'énerve.
C'est Jérôme.
Ah ouais, bah, je fous la merde, mais t'es vraiment un con, toi.
Attention. Vitorino Hilton est le doyen de la Ligue 1. Quel rôle jouerait-il dans Astérix?
AGK Conix.
Verschas et Torix.
Pardon, Daniel.
AGK Nonix.
AGK Nonix. Merci, bah
c'est le vieux, quoi. Mais, le vieux
oui,
parce que, avec la petite
oui,
blonde,
je
là.
Sais. Mais tu dis AGK Conix, excuse-moi, ce n'est pas la même chose. Oui, il bah, a un âge canonique. C'était un âge oui, canonique avec un X.
C'est ce que j'ai dit, AGK Nonix.
Oui, on réécoutera. Bon, allez, je te le donne. Allez, attention. Yvon Leroux et Christophe Kerbrat ont eu ce surnom. Lequel est-il? Il est en rapport avec la profession d'Obélix. Ils avaient un surnom.
Livreur de menhir.
Le menhir. Non, pas le livreur de menhir, Yvon Leroux.
T'es sûr que le menhir, c'était pas. Non, c'était pas Gérard Duchère, non?
Non, il y a eu le menhir. Il y a eu aussi. Non, tu confonds avec le druide. Ouais, il y a eu le druide qu'on aurait très bien. Bon, on aurait pu
quand il y avait un breton costaud, c'était toujours le menhir.
D'ailleurs, qui aurait pu jouer le druide? Un entraîneur qui aurait pu jouer.
Gourcuff.
Non.
Leclerc.
Un breton.
Daniel Leclerc. C'est Daniel Leclerc. C'est moi, bravo, Jérôme.
Mais en plus, c'était Jérôme son Bretel. Surnom, le druide.
Le oui, le druide, évidemment.
Son surnom.
Dans quel département se trouve le parc Astérix?
L'Oise.
Non, bravo Gilbert.
Dans l'Oise.
Ben oui. Mais là, mais ça, il y a que les mecs qui ont des gosses relous et qui veulent calmer qui connaissent la réponse.
Exactement.
Attention, dernière question sur ce thème.
Ouais, merde de sable aussi.
À Rennes, Roland Courbis, alors entraîneur, était d'accord avec un surnom qui lui était attribué. Courbix. Quel était ce surnom? Courbix. Bien sûr. Bravo Daniel. C'est Daniel.
On a perdu.
La preuve, on écoute.
Tu vas être baptisé Courbix. La comparaison avec Obélix, je ne la fais pas uniquement avec la corpulence, je la fais aussi avec la passion du mec qui est tombé dans le football quand il était tout petit. Ouais.
Alors, c'est marrant parce que c'est pas forcément dans le football qu'il est tombé. Ouais. Alors, on enchaîne. C'est fini? C'est fini. Est-ce qu'on peut faire un point score,
Jérôme? Oh bah c'est fini. Laure 0.
Non, ouais. J'ai un point.
Il a une réponse. Jérôme, il a un.
Tu t'appelles Laure? Ouais, non. J'ai dit Laure 0.
Non, t'as dit Jérôme.
Jérôme 1, Daniel 5, Benjamin et moi 7.
Ah, victoire de Gilbert. Bravo, magnifique victoire de Gilbert et de Benjamin. Gilbert, t'as gagné grâce à Benjamin qui fait la diff. Hein.
C'est vrai, il a choisi le bon cheval. Bravo Benjamin, tu m'envoies ton magnifique t-shirt de l'after. C'est cadeau, merci d'avoir joué avec nous.
Allez, et salut Benjamin. À demain les copines.
Demain 22h, Alain Perrin.
Salut à tous
pour parler foot.
Justement, s'il y a Alain Perrin, tu pourras lui demander c'était quoi son plan anti-Ronaldinho, j'attends encore. Hein. Avec Abdoulaye Maïté. Il avait fait une conf de presse, il avait dit on a fait un plan anti-Ronaldinho. J'ai pas trouvé. J'ai pas vu.
On le demandera demain.
Ah oui, mais demandez-lui parce qu'il l'a dit. Hein. Merci, il l'a vraiment dit.
Merci Julien, merci Laure, merci Jérôme, merci Daniel. À demain dans l'after. 22h, bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.